À la une ce soir.
Il ne peut pas conduire son camion. Ben, avec quoi qu'on va se nourrir, nous? Avec quoi qu'on va payer le loyer?
Perdre son emploi en raison des ratés de la SAAC, la ministre Guilbeault tente d'éteindre les feux.
En aucun cas, je vais accepter qu'un camionneur ne puisse pas travailler parce qu'il n'aurait pas été capable d'avoir son service à la SAAC.
Transfert en santé, Ottawa retranche 41 millions de dollars au Québec.
Ce n'est donc pas par choix, c'est par devoir que le ministre fédéral de la Santé procède tous les ans à ces déductions.
Google convoqué pour défendre sa décision de bloquer du contenu journalistique au Canada.
Je vais laisser là ma question parce que j'aurai pas la réponse, parce que je pense que vous dites n'importe quoi là-dessus. C'est du gros n'importe quoi.
Voici votre fil de la journée. Bonsoir, bon vendredi. Alors, on peut dire que les déboires de la SAAC ont volé la vedette cette semaine. La ministre Geneviève Guilbeault, vous le savez, qui est rentrée d'urgence au Québec pour essayer de gérer cette crise. Elle a même envoyé, semble-t-il, des espions dans différentes succursales comme observateurs. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que tout est loin d'être réglé. Les nouvelles mesures mises en place vont tranquillement aider à réduire les files d'attente. Mais pour certains, le mal est déjà fait. Ma collègue Véronique Dubé a croisé une dame à la SAAC complètement découragée. Son conjoint a perdu son emploi parce que son permis n'a pas été renouvelé à temps.
Succursale Henri Bourassa, la longue file d'attente à l'extérieur a au moins disparu. Les gens peuvent patienter dans la roulotte derrière moi. Et à 8h30 ce matin, dans l'édifice, la salle était bondée. La ministre Guilbeault était en visite pour encourager les employés.
La ministre est ici ce matin. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose?
Dur à dire si ça va changer les choses. C'est à long terme qu'on va voir s'il va y avoir des changements.
Moi, j'espère.
Si vous pouviez lui parler, vous lui diriez quoi?
Je lui dirais que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais c'est compliqué. C'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps. Je pense qu'ils ont dit qu'il y a eu des problèmes informatiques, puis ils ont donné des rendez-vous à tout le monde à 8 heures, tandis que ça ouvre à 8h30, donc je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé.
Dehors, Bushra Elam a assisté au point de presse de Mme Guilbeault. Elle est complètement désespérée. Son mari camionneur a perdu son emploi hier.
Bien, normalement, nous, on vient du territoire. Mais là, rendu ici, ils sont en train de nous jouer, là, d'un côté à l'autre. Juste pour changer un permis d'une province à une autre. Mais je comprends pas pourquoi, là. C'est juste ça, là. C'est... On n'a pas laissé une seule sac qu'on n'a pas visité. Puis il ne peut pas conduire son camion. Ben, avec quoi qu'on va se nourrir, nous? Avec quoi qu'on va payer le loyer? Ben, on n'a pas de rente, quoi.
Pour les gens comme moi, comme vous, qui avons un permis de conduire standard, là, de classe 5, et qui devons prendre une photo pour le renouvellement cette année, ce que je veux, c'est que les gens ne soient plus stressés par l'échéance théorique de leur permis et qu'ils sachent qu'ils ont 90 jours de plus pour venir dans les centres. Et pour ceux dont le permis est déjà venu à échéance entre le 25 janvier et le 9 mars, ils ne recevront pas de contravention jusqu'au 7 juin.
Mais il y en a plusieurs qui ont besoin de leur permis, par exemple, pour travailler. L'employeur le demande. Donc là, ce n'est pas une question de contravention.
L'IRP, l'International Registration Plan, vient à échéance le 31 mars. Donc on a environ 2000 camionneurs qui sont touchés par ça ici, qui doivent venir en centre de service pour renouveler. Je veux être très clair, là, ces dossiers-là sont priorisés. Moi, j'en parle souvent avec les dirigeants de la SAAC. Ces dossiers-là sont priorisés. On s'assure que ces gens-là puissent avoir leur rendez-vous. Et en aucun cas, je vais accepter qu'un camionneur ne puisse pas travailler à partir du 31 mars ou du 1er avril parce qu'il n'aurait pas été capable d'avoir son service à la SAAC.
Plusieurs montrent maintenant du doigt le PDG de la SAAC. Plusieurs pensent qu'il devrait quitter. La ministre Guilbeault dit qu'il n'est pas question de ça pour l'instant. Il faut d'abord éteindre les feux.
Moi, en tout cas, je suis là tous les jours, là. Puis moi, je me considère très imputable. Voyez, normalement, c'est la direction de la SAAC qui serait devant vous puis qui s'expliquerait, mais c'est moi depuis une semaine. Et je vais continuer de le faire tant et aussi longtemps que ça va être nécessaire parce que je veux que cette situation-là se redresse. Ce que je dis, c'est pas qu'il y a personne d'imputable et tout ça. Puis en temps et lieu, on fera les analyses puis on verra qui a fait quoi et qui devrait peut-être pas faire quoi la prochaine fois. C'est qu'en ce moment, moi, j'ai une situation à gérer. J'ai des centres de services avec des temps d'attente qui sont pas raisonnables. Je regarde, moi, tous les jours, je reçois ça, les temps d'attente, je regarde ça. Il n'y a personne qui se lave les mains de ça, mais effectivement, il y a des dirigeants qui sont nommés à des postes, qui ont un travail à faire, puis on le fait avec eux. En ce moment, on est tous orientés vers le même objectif. Il faut que les gens arrêtent d'attendre à la SAAC.
Je suis en compagnie du chef intérimaire du Parti libéral du Québec. Bonsoir, Marc Tanguay.
Bonsoir, Mme Bergeron.
On vient de voir le reportage de ma collègue Véronique Dubé. Il y a quand même des petits drames humains qui se vivent au quotidien en raison des problématiques.
Non, tout à fait. Tout à fait. Et c'est à briser le cœur, le reportage qu'on vient d'entendre de votre collègue. Est-ce que la ministre Guilbeault va indemniser cette famille qui n'auront pas d'argent pour mettre du pain et du beurre sur la table? Celles et ceux qui ont déjà un permis qui doit être renouvelé, ils peuvent minimalement montrer une preuve que le permis est tombé échu et ainsi de suite. Mais des cas, et il y en a de nombreux, des centaines et des centaines de cas où ils n'ont pas de permis, ils ont besoin d'avoir un permis, où ils doivent obtenir une licence première pour un automobile, bien, ce n'est pas en reportant les délais qu'eux vont pouvoir être sur nos routes.
Comment ça se fait qu'au Québec, on semble avoir autant de misère à implanter des systèmes informatiques? C'est pas la première fois qu'on voit un chaos comme ça. Là.
Ça a l'air qu'on n'apprend pas collectivement de nos erreurs. Ça a l'air que le gouvernement caquiste, qui est dans sa cinquième année, n'a pas appris de ce que l'on avait comme expérience passée. Autrement dit, quand vous essayez, et le président du syndicat est sorti la semaine passée à la SAAC disant « il faut y aller par morceaux, vous ne pouvez pas du jour au lendemain, avec les centaines de milliers de données qu'il y a à gérer, implanter un tout nouveau système ». Et là, le problème était sur la table, était devant Éric Kerr lorsqu'il a rencontré la SAAC en novembre dernier.
Oui, mais c'est fait dire que tout allait bien. Éric Kerr pouvait-il se fier aux gens qui travaillaient quand même sur ce projet-là depuis plusieurs années? Là?
La réponse, c'est une autre question. À quoi sert le ministère d'Éric Kerr? À quoi sert le ministère d'Éric Kerr? Pourquoi la rencontre a-t-elle été fixée en novembre? Pourquoi la SAAC devait-elle passer devant Éric Kerr? C'est à lui de faire les vérifications. Nous, ce que l'on a fait comme vérification au sein de ce ministère-là, imaginez-vous que c'est le champion. Le ministère d'Éric Kerr, c'est le champion, le ministère du numérique, en termes de postes vacants. 1200 postes vacants sont encore à pourvoir au sein de ce ministère-là.
La pénurie de personnel, ça touche.
Ça touche tout le monde, mais c'est le champion également de la sous-traitance. 33% des ressources humaines sont à l'externe, sont engagées à l'externe. Et dans la dernière année, imaginez-vous donc, 4 des 6 sous-ministres de ce ministère-là ont fait une porte tournante, sont entrés, ils sont sortis. Alors nous, ce qu'on demande, c'est que le temps qu'Éric Kerr prenne contrôle de son propre ministère, qu'il y ait une suspension quant à l'implantation de nouveaux systèmes numériques au Québec. Imaginez-vous, le prochain gros morceau, ce sera la santé. On ne souhaite pas ça.
Ça sera quelque chose. J'espère qu'on va tirer des leçons de tout ça. Évidemment, je vais vous parler de ce qui s'en vient lundi. Les électeurs sont appelés aux urnes dans Saint-Henri-Sainte-Anne, l'élection partielle. Est-ce que, en fait, semaine, vous allez aller sur le terrain aller de serrer des mains, aller cogner aux portes?
Tout à fait. On va poursuivre notre travail sur le terrain jusqu'à la dernière minute. On est raisonnablement confiant. On croit qu'on va être capable d'aller chercher la confiance, encore une fois, des électeurs et électrices de Saint-Henri-Sainte-Anne. Mais on ne prend personne pour acquis, évidemment.
Mais ça représente gros quand même pour vous. Là.
Bien, je pense que c'est important pour nous de s'assurer que les gens sont au courant qu'il y a une élection, au courant qu'ils pourront aller voter lundi. Ça se termine à 20 h. Et c'est pour nommer un député libéral additionnel, Christopher Banninger, qui viendrait joindre l'équipe, le 20e député, pour questionner Legault, M. Legault et le gouvernement, notamment pour les problèmes informatiques. Alors, c'est ce que l'on souhaite et on va être prêts.
Oui, puis là, on annonce quand même du beau temps.
Oui.
Ça, c'est important de le mentionner parce que des fois, les élections partielles, le taux de participation n'est jamais très, très élevé. Bien, merci beaucoup. Bonne fin de semaine.
Merci à vous. Merci. Au plaisir. Au revoir.
Au Québec, on a la possibilité de récupérer ces montants, ces déductions au cours des deux prochaines années si on fait des changements pour éviter que les gens doivent payer pour des frais de santé médicalement nécessaires.
Vous venez d'entendre le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, qui serre la vis aux provinces dont les patients ont dû payer pour des services diagnostiques en médecine. Simon, donc, Ottawa va donc retenir des dizaines de millions de dollars qui devaient être versés au Québec via les fameux transferts en santé.
Oui, les fameux transferts en santé. C'est 82 millions de dollars à l'échelle du pays. Donc, dans toutes les provinces canadiennes et la part du Québec, bien, ça représente 42 millions de dollars qui vont être retranchés de ce qui était supposé nous être transféré. Pourquoi? Bien, pour des soins de santé que les Québécois ont payés de leur poche. Et ça, bien, ça contrevient à la loi canadienne sur la santé, selon le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos. Mais surtout, ça contrevient au principe fondamental de l'universalité des soins du système de santé canadien. Donc, ce pourquoi... on serre la vis aux provinces. Vous l'avez entendu, le ministre, Québec pourrait récupérer une partie de ces sommes si, évidemment, des correctifs sont apportés. Mais techniquement, là, selon le plan santé du ministre Christian Dubé, il y aura quand même encore recours à plusieurs égards à la médecine privée. Vous allez voir dans la déclaration du ministre de la Santé aujourd'hui, ministre québécois, là, qui dit qu'écoutez, on a... On a besoin du privé pour être complémentaire au réseau public. Ça nous permet d'offrir davantage de soins aux Québécois. Les ententes avec certaines cliniques médicales privées durant la pandémie ont permis de faire plus de 150 000 chirurgies gratuitement aux Québécois. Ce qu'il dit aussi, c'est que maintenant, la santé, c'est de compétences provinciales et on devrait plutôt au fédéral augmenter les transferts en santé et non enlever de l'argent. Et puis, la déclaration se termine par « Nous allons gérer », sans dire long là, sur ce que pense le ministre Christian Dubé de cette décision du fédéral. Et puis, pour ce qui est des oppositions, du moins Québec solidaire, là, vous allez entendre le critique en matière de santé, Vincent Marissal, qui dit que c'est un bon exemple, là, ce qui arrive présentement, du fait que le gouvernement du Québec tend de plus en plus à avoir recours au privé alors qu'il devrait faire le contraire.
Le gouvernement nous promet plus de privés. On le voit dans les chirurgies, on le voit de plus en plus dans les laboratoires, on le voit aussi dans les cliniques qui ouvrent et qui sont de plus en plus vers le privé. Alors, ce gouvernement est en train essentiellement de faire ce que les gouvernements de droite précédents ont voulu faire, sauf qu'il en parle moins, il dit moins, ils font ça en catimini, mais la CAQ est en train, tranquillement, de nous amener vers une médecine privée au Québec.
Donc, le gouvernement du Québec venait d'accepter de reculons le fameux deal sur les transferts en santé avec le fédéral. Voilà qu'on retranche un 42 millions de dollars. Donc, évidemment, c'est un autre revers.
Merci beaucoup, Simon.
Au revoir.
Je poursuis la discussion avec Luc Thériault, qui est porte-parole du Bloc québécois en matière de santé. Bonsoir, M. Thériault.
Bonsoir, Mme Bergeron.
Donc, 41 millions, c'est pas rien quand même. C'est quoi, selon vous, l'objectif du ministre de la Santé? C'est une forme de punition?
Bien, en tout cas, il faut être déconnecté de l'état de santé de nos réseaux. Puis, il faut avoir du culot pour ne pas avoir mis le 6 milliards qui était nécessaire pour reconstruire à moyen et long terme notre réseau de santé. Et aujourd'hui, réclamer près de 42 millions de dollars. Vraiment, sans qu'on sache exactement quelle est la méthodologie, on nous a indiqué que c'était une estimation. Imaginez-vous, une estimation. Mais une estimation, là, en santé, là, c'est-tu 500 000 près? C'est-tu 1 million près? Et 500 000 $ c'est 500 coloscopies de moins que l'on peut faire pour soigner notre monde dans un état où le réseau a absolument besoin de tout son argent.
Mais pourquoi, alors, selon vous, il a pris cette décision-là?
Je comprends très, très mal ce que le ministre a voulu faire. On nous a promis qu'on allait nous donner un brefage technique la semaine prochaine pour nous expliquer leur prétendue formule. Il reste que nous aussi, on est pour un système public et universel, mais l'accessibilité des soins de santé, c'est lié, et la difficulté qu'on a est liée au fait que le gouvernement a sous-financé pendant 30 ans, le fédéral n'a pas mis sa part. Mm-hmm. Et aujourd'hui, il y a le culot venir réclamer de l'argent au moment même où il n'a même pas mis l'argent nécessaire pour qu'on puisse se sortir la tête de l'eau.
Oui, parce que, dans le fond, vous pensez aussi que le privé peut venir aider, en quelque sorte, à désengorger le système?
Bien, présentement, le gouvernement du Québec a indiqué que pour des opérations orthopédiques, avec la carte d'assurance maladie, on se servirait des installations qui existent déjà. Mais nous, on dit s'il y a des gens, des citoyens qui ont décidé d'aller vers le privé, c'est parce qu'effectivement, il ne réussissait pas à avoir un accès au système public. Oui. Et cet accès-là est lié au manque d'investissement du gouvernement fédéral. Donc aujourd'hui, franchement, venir nous faire la leçon et dire, donner la responsabilité au Québec d'aller chercher cet argent-là en plus, mais c'est basé sur quoi? Savez-vous sur quoi c'est basé? Comment il a fait pour établir son calcul? Et on ne fait pas des estimations avec la santé des gens.
Dites-moi, en terminant et rapidement, la ministre Chrystia Freeland va déposer son nouveau budget sous peu. Quelles sont vos attentes, justement, en matière de santé?
Écoutez, les attentes sont liées en matière de santé au deal qui vient de se faire, n'est-ce pas? Le Québec va recevoir un sixième de ce qui s'attendait pour pouvoir rebâtir la qualité de l'accessibilité à ses soins. Et ça, c'est un engagement pour les 10 prochaines années. C'est pas rien, là.
Oui. Merci beaucoup, M. Thériault.
Au plaisir.
Maintenant, lundi prochain, ça va faire 3 ans qu'on vit avec la COVID-19. Et si aujourd'hui, on a appris, en quelque sorte, à vivre avec le virus, les débuts ont été plus difficiles, notamment avec le confinement. Étonnamment, au-delà de prévenir la propagation de la COVID-19, le confinement aura eu des avantages insoupçonnés, comme nous le rapporte Fanny Lachance-Paquet.
Le 13 mars 2020, le premier ministre François Legault nous annonçait que le Québec se confinait pour freiner la propagation de COVID-19.
À compter de lundi prochain, de fermer toutes les écoles, cégeps, universités et services de garde pendant une période de 2 semaines.
Pour certains, ça a été une période particulièrement difficile.
Je suis tombée dans une dépression très sévère.
Donc, les cours en Zoom, moi, je ne vais pas m'ennuyer.
Non.
Jamais.
Complètement détesté. Et on en est sorti, et tant mieux.
Mais il y a des gens qui ont une certaine nostalgie du confinement. De quoi on s'ennuie au juste? Je suis allée leur demander.
J'avais l'impression d'avoir le temps de faire les choses que j'avais envie de faire, en fait. Plus créative, de plus me reposer, de prendre du temps sur moi, pour moi et tout.
T'avais pas la pression d'aller à l'extérieur. Je pense que c'est plus ça, là. T'sais, le soir, t'étais comme, moi, j'ai rien de prévu, ben c'est normal, c'est le confinement. Fait que je pense que ça nous a aidé là-dedans. La vie sociale, tu sais, on n'était pas obligé d'y aller. C'était correct.
Et là, c'est comme si le confinement, c'était un moment où on avait réussi à baisser un petit peu le volume. Et là, on avait entendu ce qui montait. Ah, cette amitié-là est peut-être pas satisfaisante. Ah, je l'aime peut-être plus mon travail. J'ai peut-être envie de me séparer. Je veux peut-être des enfants, finalement. Donc, c'est comme si ces pensées-là qui étaient toujours enterrées par le bruit de la vie avaient l'espace d'émerger, finalement. Donc, c'est beaucoup ça que j'ai entendu, moi, dans mon bureau.
Professionnellement, le fait de rester chez soi, télétravail, moins de pression par rapport à l'employeur, des choses comme ça.
Par exemple, vivre à la campagne, il y a eu un boom d'achats de maisons à l'extérieur des grands centres. Des gens aussi qui disent, moi, le télétravail, maintenant, ça fait partie de ma vie, j'en ai besoin pour ma santé mentale, je ne peux plus retourner temps plein au travail, au bureau. Donc ça, c'est le genre de changements qui se sont conservés.
J'ai clairement eu plus d'argent qu'avant la pandémie.
Je sortais moins, comme tout était fermé.
Je travaillais dans une épicerie, fait que c'était super simple. Je faisais de l'argent, mais je dépensais rien. C'était génial.
Et là, avec la pandémie, ben, on a eu des contraintes forcées. Hein? Fait que plus de sorties, plus d'achats de linge, plus de resto, plus de voyages. Et là, le taux d'épargne a monté pour la première fois dans l'histoire de la statistique à 35 % du revenu net. C'est-à-dire un tiers de ceux qui avaient un revenu, évidemment, ceux qui avaient continué d'avoir une paye nette, pouvaient la mettre de côté. Et en même temps, les créanciers, pendant la pandémie, ont été extrêmement conciliants. Ils ont donné des rapports de paiement à tous ceux qui pouvaient justifier être affectés par la pandémie. On s'entend que c'était presque tout le monde.
Qu'est-ce qu'on a réussi à conserver de tout ça 3 ans plus tard?
Malheureusement, pour beaucoup, ce temps-là s'est vite rempli des obligations et tout ça. Mais certains l'ont conservé. Je pense que ça dépend du travail que chacun fait, des prises de conscience et des contextes aussi de chacun.
Mais là, on retourne vers le 5 %. Donc, on retourne un petit peu avec nos anciennes habitudes, je vous dirais un peu malheureusement. On a recommencé à dépenser, il y a eu du rattrapage qui a été fait, des voyages, on peut aller au resto. Mais il reste quand même que peut-être ça a donné le goût aux gens de dire, c'est-tu moi d'avoir un petit coussin? D'avoir 4, 5 000 $ de côté pour les imprévus, j'ai pas haï ça.
Si on a passé à travers ça sans trop de difficultés, mais en même temps, on est très heureux que ce soit fini.
On va rester dans le domaine de la santé pour parler d'encéphalomyélite myalgique, communément appelé le syndrome de fatigue chronique. C'est une maladie qui ressemble beaucoup à la COVID longue. Émilie est avec moi pour en parler parce qu'Émilie, il y a 120 000 Québécois qui en souffrent et ces gens-là n'ont pas accès aux fameuses cliniques de la COVID longue qu'ils ont ouvert récemment.
Exactement, il y en a 8 de ces cliniques-là, ils n'y ont pas accès. Et eux, ils se sentent un petit peu comme des cobayes dans tout ça. Parce que tu l'as dit, Marie-Christine, l'encéphalomyélite myalgique, ça ressemble beaucoup à la COVID longue. Ce sont 2 syndromes post-infectieux. Et l'EM existait il y a bien longtemps. Ça fait quand même 50 ans qu'on la connaît. Donc, il y a des apprentissages qui ont été faits de cette maladie-là pour aider le traitement de la COVID longue. Et là, maintenant qu'on a ces apprentissages-là, on ne permet plus aux gens qui ont l'EM d'aller dans les 8 cliniques qui sont ouvertes jusqu'à présent. Ils ne trouvent pas ça juste. J'en ai profité pour faire un photoreportage avec mon collègue Ahmed Ouerkemi du quotidien de ces personnes-là qui vivent avec le syndrome de fatigue chronique. Vous pouvez regarder ça sur notre site web nouveau.info.
Bien intéressant ça. Merci beaucoup, Émilie.
Merci.
L'ingérence étrangère des postes de police clandestins, la communauté chinoise montrée du doigt de toutes parts cette semaine, le commentaire d'Yves Boisvert au retour. Vous faites peut-être partie de ces centaines de milliers de Canadiens qui ont vu leur accès limité ou carrément le bloqué à des sites d'information par le moteur de recherche Google. Eh bien, Louis-Philippe, deux hauts dirigeants de Google ont été convoqués à Ottawa. Ils ont nié avoir mal agi, mais est-ce qu'on peut dire aussi qu'ils ont passé un très mauvais quart d'heure?
Pendant deux heures, les deux témoins ont été bombardés, oui, de questions, mais surtout de critiques de la part des membres du comité permanent du patrimoine canadien. Pour mettre les gens en contexte, il faut savoir que Google Canada s'oppose depuis maintenant très longtemps au projet de loi C-18. Le projet de loi C-18, qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est que ça l'oblige les plateformes numériques, les géants comme Google, à partager leurs revenus, à créer des ententes de revenus publicitaires avec les médias canadiens. Et pendant ce débat-là, soudainement, bien, il y a 4 % des internautes canadiens qui ont vu leurs recherches et leur accès au site web d'information carrément bloqués. Je te donne un exemple. On écrit Google, on écrit Hockey Sherbrooke ou Hockey Canada dans Google, mais soudainement, il n'y a aucun résultat dans le moteur de recherche. Et ça, c'est plutôt inhabituel. Donc aujourd'hui, l'entreprise qui s'est défendue de faire de la censure, a nié vouloir faire la pression, ses parlementaires, dit plutôt que c'était un test, que c'est une procédure qui est tout à fait normale. Eh bien, les parlementaires n'y ont pas cru.
These are tests. They are not product decisions. C-18 will radically change the legal landscape for linking in Canada. This is the foundation of how the internet works.
On cherche quelque chose, on va le googler. Quand on prend une place aussi prépondérante dans un secteur d'activité qui touche la vie de tous les citoyens d'un pays, ça vient avec des responsabilités.
This is an attempt to pressure parliamentarians to do the amendments in the Senate that Google wanted for C-18.
Et Louis-Philippe, les témoins ont refusé de répondre aux questions à plusieurs reprises.
Ça a été très pénible comme deux heures, autant pour les membres du comité que, je l'imagine, pour la directrice nationale de Google Canada. Les membres qui devaient parfois, Marie-Christine, poser 4, 5, 6 fois la même question pour tenter d'obtenir réponse. À un certain point, on a pris une pause. On leur a demandé de prêter serment pour qu'on s'assure qu'ils disent la vérité et qu'on tente d'obtenir des réponses. Parallèlement à ça, Google Canada, qui devait aujourd'hui arriver avec des documents internes, notamment des courriels, des échanges textos, la liste des sites web qui ont été restreints, eh bien, ces documents, ce qu'on a compris, n'ont pas été déposés. Donc, on a vraiment dénoncé aujourd'hui la mauvaise foi de Google Canada.
We want to support Journalism Canada. We want to support open
OK, c'est bon. On a juste 3 minutes, Mme Jemaya, puis là, on se fait servir une salade encore une fois. Le gros bon sens, là, c'est de dire que si vous favorisez la libre circulation de l'information et que vous bloquez des contenus d'information, vous allez dans le sens contraire de ce que vous affirmez. C'est pas plus compliqué que ça.
Et pour ceux, bon, qui se retrouvent parmi ces chanceux, ce 4 % d'internautes dont le contenu est bloqué, eh bien, sachez que le test de Google Canada devrait prendre fin en théorie le 16 mars. Reste à voir s'ils tiendront parole.
Parfait. Merci beaucoup, Louis-Philippe.
Merci, Marie-Christine.
C'est du jamais vu en Chine. Le président Xi Jinping a obtenu un troisième mandat après un vote formel du Parlement. Ses prédécesseurs avaient cédé leur place après 10 années à ce poste. Les derniers mois n'ont pas été faciles pour le dirigeant de 69 ans. La Chine a été le théâtre de grandes manifestations à la fin novembre contre la politique zéro COVID. Une importante vague aussi de décès a suivi l'abandon des mesures sanitaires. Salut Yves.
Salut Marie-Christine.
Donc, il y a été beaucoup question de la Chine cette semaine, l'ingérence présumée, poste de police clandestin. Ça n'a pas dû être facile pour Justin Trudeau là, cette semaine.
Non, ça n'a pas été facile et ce n'est pas fini, Marie-Christine. Et je te dirais plus largement, la Chine, c'est la deuxième puissance mondiale et je pense qu'on n'a pas encore compris tout ce que ça veut dire et tout ce que ça va vouloir dire. Parce qu'un jour, qui n'est peut-être pas si loin, ce sera la première puissance économique, peut-être militaire au monde. Donc, le monde est en train de changer. Et là, ce n'est qu'un exemple, l'ingérence chinoise dans les élections, la question de ces bureaux de police clandestins qui, sous couvert de donner de l'information aux ressortissants chinois qui sont au Canada, dans le fond, monitorent leurs activités, traquent les gens qui sont des dissidents, font pression sur les familles, parce que, tu sais, si tu es un Sino-Canadien et que ta famille est encore en Chine, c'est risqué peut-être de parler de certains sujets sensibles. Et ça, le gouvernement chinois surveille ça de très près.
Justin Trudeau a fait une nouvelle annonce justement aujourd'hui concernant l'ingérence présumée.
Oui, mais tu sais, c'est des demi-annonces auxquelles on a assisté toute la semaine. Alors, au début de la semaine, M. Trudeau a parlé de nommer un rapporteur qui allait lui suggérer la façon de faire enquête sur l'ingérence dans les élections canadiennes. On attend toujours de savoir qui sera ce rapporteur ou cette rapporteuse. Je ne sais pas si c'est un mot français, mais Marie-Christine, je te dirais que... La file pour avoir cette job-là ne ressemble pas à celle qu'on voit devant les bureaux de la SAAQ.
Non, tu penses qu'il n'y a pas de file de rapporteurs?
Je suis pas certain qu'il y a beaucoup de candidats.
Ouais.
Et d'autre part, aujourd'hui, c'était Marco Mendocino, donc le ministre de la Sécurité publique, qui dit on va faire un registre des gens de l'extérieur, pas seulement chinois, qui font de l'ingérence. Donc, les diplomates ou des gens qui tentent d'influencer un peu le cours des choses ici, qui sont des étrangers. C'est une consultation. Un registre semblable existe en Australie. Il existe aux États-Unis sous une forme différente. Alors, pas un projet de loi, là. C'est on va consulter des gens pour savoir comment faire ce registre-là. Il faut comprendre une chose aussi, c'est qu'il y a 2 millions de Canadiens qui sont d'origine ou de descendance chinoise dans le pays. Alors, donc, il ne faut pas non plus que le gouvernement donne l'impression de cibler les Chinois ou les descendants chinois. Mais il n'y a pas grand-chose de concret qui a été annoncé encore et la pression va continuer, Mike.
On va attendre la nomination du rapporteur ou de la rapporteuse là-dessus. Bon week-end, on s'en reparle la semaine prochaine.
Bon week-end.
Bye-bye. Une nouvelle vous fait réagir, vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête à nous transmettre peut-être. Alors, je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, manouvelle@commercialnouveau.info. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa-Marie.
Bon vendredi, Marie-Christine.
Alors, deux immigrantes qui se retrouvent à la rue après avoir dénoncé leur employeur pour traite de personnes.
Quand même, hein, c'est pas rien. Deux femmes qui sont venues prêter main forte dans une RPA à l'appel du gouvernement du Québec pendant la pandémie, là, les fameux anges. Eh bien, les deux femmes d'origine africaine étaient préposées aux bénéficiaires jusqu'au jour où elles ont dénoncé la façon dont on les traitait. Elles vont jusqu'à parler d'esclavagisme. Imaginez, leur histoire a fait les manchettes, elles ont perdu leur emploi. Et là, 8 mois plus tard, elles sont à la rue, se sentent abandonnées par Ottawa puisqu'elles sont toujours en attente d'un permis de travail de la part du gouvernement fédéral. Voici un extrait de leur témoignage.
Si on était resté dans la clandestinité, on n'allait pas arriver là aujourd'hui. Je suis maintenant sans abri. Je suis dehors. Je n'ai aucun revenu. Alors que tout ce que j'ai fait, je sais que je n'ai pas fait de mal. J'ai juste voulu prêter main forte. Tout ce que je veux, me reconstruire une vie. Je veux avoir une vie. Je veux sortir comme tout le monde, travailler. Je suis quelqu'un qui peut travailler, mais je n'ai pas l'occasion de le faire. J'ai dit qu'ils se mettent un peu à la place de certaines personnes. On souffre beaucoup. C'est pas facile, cette vie-là.
Ouais, témoignage touchant qui a été recueilli par mon collègue Mathieu Boivin. Ce sera disponible sur Nouveau.info et au fil dans un instant.
Merci, Lisa-Marie. Bon week-end. On en parlait tantôt, c'est le dernier blitz en vue de l'élection partielle dans la circonscription Saint-Henri-Sainte-Anne. Les candidats multiplient évidemment le porte-à-porte et les appels afin de faire sortir le vote. Il y a plus de 12 % de l'électorat qui s'est déjà manifesté lors du vote par anticipation. Emmanuel Leroux-Néga a rencontré les candidats pour discuter de la campagne et des enjeux aussi qui touchent les citoyens.
Bonjour, bonjour, madame.
Encore moi, ça va bien?
Tout le monde parle de crise du logement.
Logements sociaux, logements abordables.
Tout le monde parle de crise du coût de la vie.
Les gens veulent de l'aide pour leur portefeuille.
Tout le monde parle de l'enjeu climatique.
On a aussi les soins à domicile pour les aînés.
Puis de plus en plus, les gens me parlent qu'ils veulent un changement de discours sur l'immigration.
Parfait. Ça, c'est la station de vote.
Quelles sont les réponses que vous offrez en tant que candidat pour faire avancer ces enjeux-là?
Bien, pour ce qui est de l'inflation, il y a le budget qui s'en vient. Il y a le bouclier anti-inflation qu'on a commencé avant les fêtes. Puis, il y a les baisses d'impôts qui s'en viennent. Puis concernant les logements sociaux abordables, c'est important d'informer la population qu'il y a des projets qui sont en cours. Il y en a 11 précisément dans le sud-ouest.
Abordable?
ça prête à confusion parce qu'on parle de loyers qui commencent à 800 $. Pour beaucoup de gens, à Saint-Henri-Sainte-Anne, 800 $, ça ne fait pas l'affaire. On a 201 habitations barricadées. C'est énorme. Les fonds sont bloqués au gouvernement de M. Legault depuis novembre 2021.
C'est pas seulement en construisant du logement qu'on va régler la question. À Québec solidaire, le registre des loyers fait partie des propositions. On veut savoir combien la personne payait avant vous pour le loyer. Comme ça, au besoin, malheureusement, s'il y a un bris, on peut contester, on le sait. On veut un moratoire sur les rénovictions dans les quartiers qui sont saturés. On veut serrer la vis un peu sur Airbnb. On veut protéger les aînés.
Vous parlez de logement, vous parlez de valeurs qui sont souvent associées à Québec solidaire. Comment est-ce que vous allez convaincre les gens que c'est vous qui devez aller voir?
Très bonne question. Alors, deux choses. Un, j'ai rencontré ma femme dans un party à Saint-Henri. On a vécu ici, mes parents y vivent. Et ce qui me distingue, moi, comme entrepreneur social, c'est de trouver cet équilibre entre un plan économique et la justice sociale. Ça, c'est la fondation de notre vision libérale, mais c'est aussi à la fondation de mon expérience en tant qu'entrepreneur social. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller voter?
Non, pas encore.
Comment vous le sentez, ces élections?
Bien, je ne sais pas si ça va changer grand-chose, mais en tout cas.
Le gouvernement ne va pas changer, là. Les libéraux vont rester l'opposition officielle, Québec solidaire va rester la deuxième. La question, c'est qui va le mieux marteler ou faire les pressions pour que les enjeux de la circo soient répondus? Qui va défendre les intérêts de Saint-Henri-Sainte-Anne le mieux face à François Legault? C'est une connaissance aussi de nos quartiers. Moi, j'habite dans la circonscription depuis une dizaine d'années, dans le quartier Saint-Henri. Je travaille dans la petite Bourgogne. J'ai ouvert mon cabinet il y a 3 ans maintenant. Je suis avocat en droit de l'immigration. C'est là que j'ai décidé de fonder mon premier bureau.
D'après moi, c'est en haut, là.
Si vous n'êtes pas particulièrement lié de base à la circonscription, certaines personnes disent que vous avez été parachuté un peu.
La définition d'un candidat parachuté ou d'un poteau, c'est qu'il va être juste sur une affiche puis il ne fera pas campagne. Moi, c'est tout le contraire. Depuis un mois, je fais campagne, je suis sur le terrain. On n'a jamais eu encore ici de représentants de la CAQ. Moi, je leur demande, avec l'implication, la motivation que j'ai, de me faire confiance.
C'est au coin de la rue. Bonne journée, au revoir. Enchanté, bon vote.
Nous avons aussi sollicité la candidate du PQ, Andréane Fiola, mais à cause de son horaire chargé et de la fin de la campagne, elle n'a pas trouvé le temps pour nous accorder une entrevue.
On vient de parler de logements abordables dans la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne, vous l'avez vu, mais ce qu'on vit là-bas, c'est une problématique qui se fait sentir un peu partout. Mais il y a une bonne nouvelle à Laval. L'Office municipal de l'habitation va rénover 74 logements du quartier Val-Martin. C'était d'ailleurs aujourd'hui l'inauguration du quartier où 235 logements ont été construits et 124 logements ont été rénovés pour des familles à faible revenu. Par ailleurs, la ministre responsable de l'habitation est ouverte à l'idée de Québec solidaire qui demande de rendre illégales les évictions de locataires pour y faire des Airbnb.
Les gens vulnérables, des gens qui sont dans un logement depuis des années puis qui se font jeter dehors pour des raisons qui, en ce moment, honnêtement, sont ordinaires, là... Je trouve ça déplorable, puis j'ai pas l'intention que ça perdure. Maintenant, comment les choses vont se faire, là, faut finir de faire notre analyse pour, comme je vous dis, changer le code civil. Tu décides pas ça comme ça, là. Alors, on va faire les choses dans les règles de l'art.
Maintenant, il n'y a pas que les ventes de maisons qui ralentissent en raison de la forte hausse des taux hypothécaires, les projets de rénovation aussi. Alors que les deux derniers printemps avaient été beaucoup plus occupés pour les entrepreneurs, les dépenses en construction fondent actuellement comme neige au soleil. Les détails avec Lily Mercure.
Il y a moins de demandes que 2021-2022, qui a été un peu les années folles là, de la construction. Je vous dirais que 2023 est plus revenu à normal. C'est pas qu'on a moins de demandes, mais c'est plus revenu à normal.
Sur notre radar, il n'y a que les gros joueurs.
On est dans une période un petit peu incertaine là, par rapport au taux d'intérêt. Donc, il y a une petite diminution. Les gens se demandent encore qu'est-ce qui va se passer. Par contre, ça rentre quand même, là, les projets.
Il y a quelques clients il y a 2 ans avant COVID qui nous relancent en ce moment pour justement faire les projets. Cependant, par rapport à l'année passée, niveau des soumissions, niveau des ventes, c'est sûr que c'est plus à la baisse.
En raison de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt sur les prêts immobiliers, il y a beaucoup moins de travaux de rénovation qui vont se faire cette année par rapport à l'année dernière. L'Association de la construction du Québec évalue à 30 % cette baisse des rénovations et des mises en chantier cette année.
Tu vois, à partir du mois de septembre 2022 jusqu'à aujourd'hui, là, que c'est une tendance graduelle
graduelle, mais constante, en baisse. Il y a beaucoup de promoteurs et d'entrepreneurs qui doivent malheureusement mettre un terme à leur projet ou du moins le mettre sur la glace jusqu'à ce que les contextes économiques se replacent.
C'est quoi les conséquences sur le monde de la construction, cette baisse-là? Bien,
évidemment, il y a beaucoup de sous-traitants qui vont migrer vers d'autres types de métiers. Donc ça, c'est une conséquence réelle. Ça affecte aussi la pénurie de main-d'œuvre déjà accrue.
Qu'est-ce que vous avez à dire sur le coût des matériaux?
Bien, c'est sûr qu'on vient de sortir d'un 2 ans assez spécial au niveau des coûts des matériaux. Il y a eu des grosses fluctuations, des grosses montées de prix, d'explosion de prix. Depuis 4 à 6 mois, ça se stabilise, puis on s'en va en ce moment vers un prix plus stable, qui est plus raisonnable. Comparativement à l'année passée, ça part un petit peu plus lentement. C'est sûr qu'il y a des mauvaises nouvelles un peu sur le marché avec les taux hypothécaires, ces choses-là. Mais depuis une dizaine de jours, on sent là, qu'il y a un petit réveil. Là, l'enthousiasme revient, le soleil revient aussi, puis les projets arrivent. Ouais.
Le taux de chômage est demeuré stable au Canada en février. Il est toujours de 5 % grâce à la création de 22 000 emplois, un chiffre qui est près du creux record de 4,9 % enregistré en juin et juillet 2022. Au Québec, le taux de chômage a légèrement grimpé. Il est passé de 3,9 à 4,1 %. Et c'est à Québec que le taux de chômage est le plus bas au pays. Il est de 1,9 %. Maintenant, deux ex-préposés aux bénéficiaires de la région de Québec qui ont perdu leur emploi il y a un an vivent un véritable cauchemar. Les deux femmes d'origine africaine avaient dénoncé une résidence privée de Lévis qui les traitait, selon elles, comme des esclaves. Elles sont maintenant sans revenus et sans logis depuis 8 mois. Donc, elles attendent qu'Ottawa leur délivre un permis de séjour et un permis de travail. Le reportage de Mathieu Boivin.
En juin 2022, un reportage exposait le cauchemar vécu par Marie et Lindsay. Les deux dames d'origine africaine sont tombées dans le piège d'une résidence pour personnes âgées de Lévis. On leur promettait de leur obtenir un permis de travail en échange d'un travail comme préposé aux bénéficiaires. Après quelques semaines, Marie et Lindsay ont dénoncé leur traitement. On leur imposait des horaires de fou pour un maigre salaire de 200 $ par semaine. Sans surprise, elles ont perdu leur emploi et se sont aperçues que rien n'avait été fait pour leur obtenir leur permis de travail. Elles demandent alors à Ottawa un permis de séjour temporaire d'urgence et un permis de travail, sous prétexte qu'elles sont victimes de traite de personnes. Mais 8 mois plus tard, elles sont toujours en attente. Immigration Canada semble leur reprocher d'avoir travaillé illégalement.
On a voulu faire sortir ce que certaines personnes cachent. Je suppose que c'est ce qui nous pénalise, parce que si on était resté dans la clandestinité, on n'allait pas arriver là aujourd'hui. Je suis maintenant sans abri. Je suis dehors. Je n'ai aucun revenu. Alors que tout ce que j'ai fait, je sais que je n'ai pas fait de mal. J'ai juste voulu prêter main forte. Tout ce que je veux, me reconstruire une vie. Je veux avoir une vie. Je veux sortir comme tout le monde, travailler. Je suis quelqu'un qui peut travailler, mais je n'ai pas l'occasion de le faire. J'ai dit qu'ils se mettent un peu à la place de certaines personnes. On souffre beaucoup. Ce n'est pas facile, cette vie-là.
Au Centre des travailleurs immigrants, on déplore l'insensibilité de la bureaucratie fédérale.
Il faut rappeler que c'est notre société qui a invité les visiteurs à travailler. Au plein cœur de la pandémie, on avait besoin de travailleurs. On a dit, les visiteurs, vous pouvez appliquer pour des permis de travail au Canada. Ces dames-là ont voulu faire, selon toutes les bonnes intentions, les choses normalement, légalement, pour obtenir leur permis de travail. Mais elles ont été victimes d'une fraude. Mais c'est sûr que si on est quelqu'un qui a été victime d'une fraude, bien, on a un certain point eu un parcours irrégulier. Donc, les programmes qui répondent justement à ça devraient prendre ça en compte et pas se retourner contre les personnes qui appliquent pour une demande de soutien.
Sol Zanetti de Québec solidaire déplore ce qui arrive à Marie et Lindsay. Selon lui, Ottawa niaise avec la POC.
Ces femmes-là vivent une injustice pas possible. On a un besoin criant de personnes comme elles dans le milieu de la santé. Je trouve ça inacceptable. Je pense qu'on devrait rapatrier au Québec les pouvoirs qui nous permettent justement d'émettre nous-mêmes des permis de travail, puis qu'on arrête de laisser justement le Canada niaiser avec la POC pendant qu'on est en pénurie de main-d'œuvre importante, surtout dans des cas humanitaires comme celui-là.
C'est la 95e cérémonie des Oscars dimanche. Qu'est-ce qu'on surveille cette année? On en discute avec le journal. C'est ce dimanche qu'aura lieu la 95e soirée des Oscars à Los Angeles, en Californie. C'est l'humoriste et animateur Jimmy Kimmel qui sera, et ce, pour la troisième fois, le maître de cérémonie pour parler de cette soirée qui récompense les meilleurs artistes et artisans du cinéma. Je joins le journaliste indépendant Henri Arnaud, qui se trouve présentement à Hollywood. Bonsoir, Henri.
Bonsoir, Marie-Christine.
Donc, il semble que ça a été difficile pour les organisateurs de trouver un animateur pour cette 95e édition. Est-ce qu'on sait pourquoi?
Tout simplement parce que l'an passé, Will Smith a giflé l'animateur Chris Rock en mondovision devant des dizaines de millions de téléspectateurs. Et cette année, non seulement Chris Rock a refusé de présenter les Oscars,
mais les producteurs ont eu... En raison de cet incident-là?
Ah, bien sûr. Et les producteurs ont eu toutes les misères du monde à trouver quelqu'un. Au final, Jimmy Kimmel, c'est lui qui s'y colle, tout simplement parce qu'il est sous contrat avec la chaîne ABC qui diffuse les Oscars. Donc, quelque part, c'est probablement le seul qui ne pouvait pas dire non au producteur.
Nous sommes à quelques jours là, de l'événement et les célébrités hollywoodiennes. À quoi ça ressemble, les derniers préparatifs?
Alors, les deux derniers jours, aujourd'hui vendredi et demain samedi, c'est à ce moment-là que les stars qui vont venir sur scène pour présenter un Oscar peuvent venir répéter. Cette année, on attend Harrison Ford, Halle Berry, John Travolta parmi beaucoup d'autres. C'est aujourd'hui et demain que ces célébrités, s'ils le souhaitent, peuvent venir sur la scène du théâtre Dolby sur Hollywood Boulevard pour faire les repérages caméra, pour voir leur entrée et sortie de scène. C'est la dernière opportunité pour eux. Et puis, avec la pluie qui tombe aujourd'hui, c'est aussi le jour où on prépare, on abrite, on fait tout ce qu'on peut pour que les caméras soient prêtes au moment prévu.
On comprend. Et qu'est-ce qu'il va falloir surveiller le plus particulièrement ce dimanche?
Il y a deux compétitions qui sont encore très serrées. Meilleure actrice, Cate Blanchett ou Michelle Yeoh. L'actrice asiatique a de grandes chances de l'emporter pour Everything Everywhere sur Cate Blanchett, qui est la star qui est parfaite dans le film Tar. Mais il y a aussi une grande compétition du côté des acteurs. On a Brendan Fraser, dont c'est le grand retour après presque 10 ans d'absence dans The Well, le film dramatique, et aussi Austin Butler, qui est brillant dans le film biographique sur la vie d'Elvis Presley. Est-ce que ça sera le jeune qui va devenir star d'Hollywood grâce aux Oscars ou le revenant Brendan Fraser? Il faudra attendre dimanche soir pour avoir la réponse.
Bien de voir ça. Et lors des Oscars, il y a aussi ce qu'on appelle des soirées privées. Là, peux-tu nous en parler un peu?
Alors, Marie-Christine, ces soirées, ça dure depuis déjà une semaine. Ça va se terminer dimanche soir avec les soirées après les Oscars. Tout le monde est en ville. Il faut dire que les deux semaines qui précèdent les Oscars, les acteurs, qu'ils soient nominés ou pas, les producteurs, les réalisateurs, tout le monde vient à Los Angeles pour participer, pour se montrer, comme on dit. James Cameron a organisé avant-hier une soirée pour l'environnement, pour tous ses projets pour les océans. Hier soir, il y avait une soirée australienne avec notamment Cate Blanchett. Donc, c'est vraiment le moment où plus ou moins on se retrouve dans la colline d'Hollywood ou dans des maisons privées pour se montrer.
On va suivre ça. Merci beaucoup, Henri.
Un plaisir, à bientôt.
Pierre Carpelado met la main sur les Alouettes de Montréal. Le président directeur général de Québecor acquiert l'équipe de football à titre personnel. Pierre Carpelado estime que l'achat des Alouettes est une opération de fierté, non pas financière. Par rapport aux droits de diffusion, l'homme d'affaires affirme qu'il est prématuré de parler du rôle que pourrait jouer TVA Sport.
Nous avons, je pense, tous les outils nécessaires pour faire parler des Alouettes, pour faire en sorte également aussi que les Alouettes, les joueurs, l'équipe des Alouettes deviennent encore plus proches des Québécois, des Québécoises, des Montréalais et des Montréalaises. C'est ce que nous entendons faire. Je pense que nous avons énormément de moyens pour justement faire la promotion, faire parler de nos Alouettes, faire parler de nos joueurs, faire parler de notre équipe.
Sabrina, le budget fédéral sera présenté finalement, on le sait, c'est à la fin mars.
Oui, effectivement. Donc, ce sera le 28 mars prochain. C'est là que la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, qui va présenter le budget. Il sera déposé alors que l'économie canadienne devrait ralentir cette année et entrer potentiellement en récession. On a vu notamment cette semaine dans le statu quo au niveau du taux directeur. Donc, reste à voir à quoi ça va ressembler, ce budget-là, à la fin du mois de mars.
Et Sabrina, il y a un moment très important en fin de semaine.
Ben, oui, je sais.
On change l'heure. on avance, on recule.
Mais sais-tu, on fait un changement d'heure deux fois par année depuis.
On se mélange tout le temps.
Moi, à 33 ans, à chaque fois, je me dis, mais voyons, mais qu'est-ce qui se passe? Au mois de mars, on avance l'heure, ce qui veut dire qu'on va perdre une heure dans la nuit de samedi à dimanche. Et j'ai fouillé sur Internet pour trouver un petit truc.
Ah oui, vas-y.
Et ce que j'ai vu, c'est que dans le mois de mars, on a le A. Donc, on avance l'heure. Novembre. Recule l'heure.
Oh, Seigneur.
Et je vous finis ça ce vendredi avec prof Sabrina qui vous enseigne là-dessus. Bref, bien sûr, bien d'autres choses ce soir et non pas un truc pour retenir le changement d'heure.
Mais t'es toujours à 22 heures.
Ben oui, effectivement.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve lundi, 17 h. Bon week-end.